Avant 9h, tout est possible.
Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1, Raymond Poirier au micro. Merci d'être à l'écoute. Et bien, comme on vous le disait tout à l'heure, on se lance dans le dernier volet de cette semaine électorale qu'on vous a proposé. François G. Couillard, bonjour.
Salut Raymond. Donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu es prêt pour la campagne fédérale?
Bien, nous sommes prêts pour la campagne fédérale, mais j'aimerais mettre de côté la campagne provinciale avant. Hein, malheureusement, on verra qu'est-ce qui arrivera au niveau fédéral, en espérant que la tempête passera. Mais pour l'instant, donc, on s'intéresse à ce qui se passe au provincial. Dernière rencontre avec, donc, des candidats, candidates du Parti libéral du Québec. J'ai une petite tournée de présentation. Premièrement, candidat dans Taschereau et les fondateurs de l'établissement d'enseignement privé de formation générale Nouvelle Frontière. Depuis 2004, il est également consultant et premier vice-président de l'Association des retraités et retraités de l'enseignement privé. Hébert Dufour, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, eh ben, elle a été députée de Chauveau de 2003 à 2007. Elle se présente évidemment dans Chauveau. Et au fil du dernier mandat libéral, elle a été directrice de cabinet adjointe de la ministre de l'Éducation, du Loisir, du Sport et de la Famille, Michel Courchesne. Sarah Perrault, bonjour.
Bon matin.
Et enfin, il est candidat dans Vanier. Il est conseiller municipal de Duberger depuis 2005 et titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et d'une maîtrise en analyse des politiques. Patrick Huette, bonjour.
Bon matin.
Alors, mais peut-être première question, si on se lance, toute évidence, en fait, on n'a pas l'impression que les Québécois sont très contents d'être en élection. On n'a qu'à aller dans la rue, on le fait, et on entend souvent des propos du type, ben, je ne voulais pas ces élections-là. De votre côté, il me semble que l'enjeu au cœur de l'élection, c'est bien entendu d'avoir cette majorité du côté de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui fait que les citoyens, globalement, vont en sortir gagnants, d'après vous, de cette élection-là? Et qu'est-ce que la région de Québec va en retirer d'avoir fait ces élections et de vous donner peut-être une majorité au bout du compte?
Bien, je vous dirais que la véritable question, c'était pas de savoir s'il y aurait des élections, c'était quand il y aurait des élections. Par définition, un gouvernement minoritaire, c'est un gouvernement qui est fragile. C'est un gouvernement qui à tout moment, peut être renversé. À deux reprises, l'Action démocratique du Québec a voulu renverser le gouvernement sur la question des commissions scolaires. Puis avant ça, sur la question du budget qu'il n'avait même pas vu 2 mois après la première élection. Donc, c'est un gouvernement qui était fragile. Et dans le contexte économique actuel, où on sent une tempête, puis on la sent de plus en plus, on n'a qu'à écouter le téléjournal tous les soirs, où les nouvelles économiques se font de plus en plus inquiétantes. Le premier ministre du Québec a jugé d'aller en élection pour avoir un mandat qui soit plus stable et pour permettre de gouverner le Québec avec plus de stabilité.
Mais vous, Mme Perrault, vous devez être particulièrement contente là, des élections, puisqu'en 2003-2007, vous étiez députée, et là, vous avez été renversée par la vague adéquiste. Peut-être que, justement, c'est pour vous, c'est une chance d'en avoir votre poste.
Ben, je vous dirais que la question ne se pose pas de cette façon-là. On a des élections parce que c'est nécessaire d'en avoir à ce moment-ci. C'est sûr que moi, qui ai été députée entre 2003 et 2007, j'ai fait le choix de me représenter parce que j'avais envie de revenir. J'avais envie aussi de défendre les couleurs du Parti libéral parce que moi, j'y crois à cette nécessité-là d'un gouvernement stable dans une situation économique qui est plus problématique. Mais en fait, moi, je reviens en politique parce que j'ai été députée puis je reviens à ce moment-ci.
Et si on regarde un peu dans la région de Québec, bon, on a parlé aux autres grands partis qui disent, ben, selon nous, le bilan du gouvernement libéral dans la région, il est faible. En fait, on parle de projets qu'on peine à accrocher, des grands projets, oui, du 400e, mais qui ont été accrochés, eux, il y a déjà assez longtemps. L'économie va bien, mais c'est peut-être plutôt dû à la conjoncture économique et qu'à le travail gouvernemental. Donc, compte tenu de tout ça, de votre côté, comment vous le défendez un peu, votre bilan? Comment vous répondez à ces partis qui vous disent, ben, regardez, le bilan libéral, il n'est pas intéressant dans la région?
Je vous dirais juste avant de céder la parole à Patrick, la situation économique de la région de Québec est quand même une situation qui est très, très bonne. À 4,4% de taux de chômage dans la région de Québec, une activité économique importante, une des villes au Canada et sur la côte est américaine ou au niveau de l'activité économique, une des meilleures villes
pour investir. Mais iriez-vous jusqu'à dire que, comme Monique Jérôme-Ferger a dit, que la crise économique n'existe pas ici, on la sent?
On la sent peut-être moins. C'est quand on fait le tour des... Moi, j'ai fait beaucoup le tour des commerces dans mon secteur pendant la campagne, et les gens nous disent on ressent pas encore les coûts, on ressent plus la pénurie de la main-d'œuvre. On serait capable de faire encore plus d'affaires si on avait plus, on était capable de se trouver plus de main-d'œuvre spécialisée qui répondent à nos besoins, que ce soit des firmes en informatique qui nous disent si on avait une, deux, trois personnes de plus, on ferait plus d'affaires. Donc, nous, on n'a pas senti encore le ralentissement. C'est la question de la pénurie de la main-d'œuvre. Je vous dirais, la grande force de Québec, c'est que Québec a réussi ce qu'on appelle la diversification de son économie. Souvenez-vous, dans les derniers mois, on a annoncé avec Pôle Québec-Chaudière-Appalaches toute la démarche Accor avec les créneaux d'excellence pour la région de Québec, que ce soit en divertissement interactif, la défense et sécurité. Il y a la géomatique qui va s'en venir. Donc, c'est toutes des choses qui ont été faites en collaboration avec les villes de la région de Québec, avec Pôle Québec-Chaudière-Appalaches, le bureau de la capitale nationale. Donc, Québec est très, très bien positionné. On dit que Québec va peut-être être moins touché par la crise. On l'espère, en tout cas. Le terme que M. Charest utilise, c'est que Québec va peut-être être le village gaulois dans tout ça qui va réussir à ressortir du lot. Donc, le Parti libéral a quelque chose à voir dans toute la réussite de Québec, dans tout l'élan. C'est sûr qu'avec le 400e, on a donné une espèce d'élan qui nous permet, qui a fait réaliser à tout le monde que Québec était capable de viser haut, viser loin. Mais on est capable de continuer.
Donc, dans le fond, au niveau du bilan, ce que vous nous dites, c'est qu'essentiellement, les gens qui disent, regardez, vous n'avez pas accompli grand-chose dans la région, mais vous leur dites, regardez, vous errez complètement, vous dites n'importe quoi.
Sans dire, vous dites n'importe quoi, c'est regarder la situation de Québec. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. La situation économique n'a jamais été aussi bonne à Québec. Il n'y a jamais eu autant d'emplois à Québec. Les gens travaillent. Il y a encore, regardez un petit peu partout. Promenez-vous dans n'importe quel secteur. Vous allez voir écrit dans sur les devantures de commerce, nous embauchons. Donc, il y a de la place encore là pour faire des bonnes affaires. Donc, je vous dirais que si ça va bien à Québec, on a certainement eu un rôle à jouer dans ça.
Puis il faut peut-être ajouter aussi que sans nier qu'il y a de la pauvreté à Québec, partout au Canada, cette pauvreté-là a augmenté, tandis qu'à Québec, on sent une diminution actuellement au niveau de la pauvreté, sans nier qu'elle existe quand même. C'est quand même un bon élément aussi.
Et si on regarde votre plateforme régionale, je vais un peu dans les grandes lignes, 65 millions de dollars pour la promenade Samuel de Champlain, 50 millions de dollars pour l'amphithéâtre, ça fait 115 millions. Et essentiellement, la majorité de vos engagements monétaires dans la région, et si on regarde aussi votre programme, dans le fond, c'est des engagements peut-être liés au sport, liés à l'économie, liés à la culture. Il n'y a rien pour des engagements pour la société, pour des mesures sociales, il n'y a pas de mesures pour l'environnement. Pourquoi seulement ces trois éléments-là dans le programme régional?
Il y a évidemment beaucoup de choses économiques. Vous avez passé, il y a quand même beaucoup d'engagement pour les familles, pour la réalité des familles, pour dans les écoles aussi. Une mesure sociale très, très, très importante qui est annoncée, c'est qu'on s'est engagé à diminuer le ratio professeur-élève de 10%. Je sais qu'on va peut-être parler un peu plus d'éducation tout à l'heure. Là.
On parle de la plateforme régionale.
Disons que la plateforme nationale a des impacts quand même régionales aussi. On a dans nos comtés, on a tous ce qu'on appelle dans le jargon des poches de pauvreté, des secteurs plus pauvres. Mais dans ces secteurs-là, on veut diminuer le ratio de professeurs-élèves de 20%. Donc, c'est quelque chose de très réel qui va toucher la région dans certains secteurs aussi.
Je vous confronte un peu au programme du PQ en parallèle qui lui dit, regardez, nous, on va encourager localement des initiatives, par exemple, liées à l'itinérance, des choses comme ça. Donc, il y a des mesures où on dit clairement, on a des budgets, on a des enveloppes qu'on va sortir précisément pour des groupes, pour des mesures sociales. On va essayer de mettre de l'argent pour le transport en commun de la région. C'est pas des éléments que je retrouve, mais c'est des éléments qu'on nous dit du côté des autres que c'est nécessaire. Alors, pourquoi vous avez décidé de mettre vraiment tout du côté du sport, de l'économie, de la culture?
Moi, je pense pas qu'on a décidé ça. Je veux dire, il y a des mesures aussi qui viennent soutenir les aidants naturels. Il y a le Fonds Chagnon, la Fondation Chagnon, avec le gouvernement du Québec, qui vient annoncer un 200 millions qui va être investi pour les aidants naturels, pour supporter les personnes âgées ou les problématiques de santé mentale. C'est majeur. Ça va permettre aux aidants naturels d'alléger, je dirais, le fardeau financier que ça leur coûte. Alors là, en voilà une mesure sociale. Toutes les mesures qui sont annoncées pour les familles, pour les annonces de places en garderie, le crédit d'impôt pour la garde, qui est mise en place, qui va être bonifiée jusqu'à un revenu familial de 125 000 $ qui va permettre à des parents qui, eux, font le choix, un autre choix que celui d'une garde subventionnée ou qui n'ont pas de place, parce que, disons-le, on sait qu'il y a, encore des besoins de place, qui vont pouvoir avoir quelqu'un qui vient garder à la maison ou accès à une garderie privée pour 7 $ par jour. C'est majeur, ça répond à deux préoccupations, celle du véritable choix pour le parent et l'autre qui vient combler le manque de place. Parce que, honnêtement, quand on parle de place en garderie, c'est difficile d'évaluer le nombre de places dont on a besoin, parce que la garderie n'est pas obligatoire.
Dans l'enfant, en ce qui concerne ces mesures-là, on s'appuie vraiment sur la plateforme provinciale, mais localement, pour des organismes locaux, X, Y ou Z, ou pour des mesures environnementales locales, est-ce qu'on a des exemples régional, dans le fond.
Je veux juste ajouter quelque chose. On a bonifié de 1,8 million de $ l'investissement aux organismes communautaires familles. C'est majeur. Parce que, je vais vous dire, c'est des organismes qui œuvrent directement dans le milieu. Il y a des maisons de la famille dans la région de Québec qui ont vu leur financement augmenter grâce à ce 1,8 million de $. On a rendu récurrent l'aide aux haltes garderies que nous avons financées, qui n'étaient pas financées avant que nous soyons là. Ça en est des aides directes là, à la communauté sur le secteur. Il y a le pacte de l'emploi qui est majeur, qui va avoir un impact directement dans la région de Québec pour une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre qui répond aux besoins des entreprises. Donc ça, ça en est des mesures qui sont très concrètes et qui, en même temps, favorisent le développement économique et supportent l'économie.
Et aussi, il faut ajouter, en tout cas, moi, j'en parle plus localement dans le comté de Taschereau, le logement social, qui est essentiel dans notre comté. Et actuellement, il reste, au niveau de la région, 400 quelques logements à réaliser, et il y en a autour de 1 600 qui ont été livrés dans la région. C'est quand même important de poursuivre ce dossier-là. Aussi, on parlait des aînés. Dans le comté de Taschereau, il faut absolument voir au niveau de la qualité de vie de ces gens-là. Et ça, c'est un projet qui me tient fort à cœur. Sans parler de la formation de main-d'œuvre. Étant issu du monde de l'éducation, il faut absolument amener les gens à les mettre à niveau, un terme nouveau, par rapport aux emplois qu'on offre. Il y a beaucoup d'emplois qui est offert, mais peut-être que les gens ne sont pas aptes à tous les combler.
Et vous avez aussi parlé du transport en commun. Moi, personnellement, je me suis engagé dans une plateforme plus locale, mais qui a une incidence régionale. À Québec, il y a des projets de nouveaux métrobus encore. On a vu le dernier, le 802, qui est en place depuis quelques mois. Il y a des projets, le RTC, la Ville de Québec, a des projets avec les 803, 804, les autobus 60 et les autobus 80, l'autobus 87. Ça prend un appui du gouvernement provincial. On a beaucoup de financement pour ça.
C'est quoi votre opinion là-dessus?
Le tramway ne fait pas consensus à Québec, je vous dirais. C'est quelque chose qui se discute. Si tout le monde s'entend pour aller pour un tramway, contre un tramway, il y a peut-être encore des discussions à y avoir. Il y a des gens qui font la promotion. Il y en a qui sont tout à fait contre le tramway. Je vous dirais que c'est difficile de se faire une opinion juste et éclairée. Tant que quelque chose ne fait pas, sans dire l'unanimité, mais consensus, et un projet pour une ville comme Québec, le porteur d'un dossier comme le tramway doit être le maire ou la mairesse de Québec. Si cette personne-là ne porte pas le dossier, n'y croit pas, on peut pas avancer le dossier.
Puis il faut ajouter que les montants d'argent qui ont été remis pour le transport collectif ont été remis quand même au RTC pour appuyer ces projets. Donc, on est plus à cet égard-là un accompagnateur comme parti libéral provincial. Et c'est fort important pour notre région aussi.
Il y a aussi des programmes de transport collectif, je dois rajouter, dans les petites municipalités où souvent le réseau de transport ne se rend pas, pour permettre des taxis communs ou des initiatives locales qui sont supportées financièrement. Ça s'inscrit dans un développement de transport en commun, puis ça a aussi une connotation environnementale, puisqu'on vient partager un service. Puis je veux ajouter quelque chose qui fait peut-être plus consensus, puis qu'on pourrait aborder, c'est le train Québec-Windsor. Qui s'inscrit dans vos préoccupations, dans nos et dans vos préoccupations environnementales, et qui est un accès sur Québec, qui est un projet qui fait consensus, et le premier ministre s'est engagé à le développer. On va le faire avec le gouvernement fédéral, qui lui aussi a un intérêt. Donc, voilà un projet qui de transport qui s'inscrit dans ces préoccupations-là, puis qui ouvre Québec. Québec, la plaque tournante avec le 400e de Québec, on a senti que Québec était vraiment ouvert sur le monde. On a accueilli ici des milliers, des centaines de milliers de visiteurs qui sont venus nous voir. Et maintenant, ben, Québec est positionné pour un paquet d'événements. On pense à la tenue des Jeux olympiques qui serait un événement majeur qui vient, je dirais, raviver, puis pas raviver, parce que maintenir cette flamme-là qu'on a développée à Québec, et ça, c'est majeur.
Alors, on va terminer ce bloc général. On va s'en aller en musique. Au retour, on va se lancer sur le thème de l'économie, qui est quand même un des thèmes principaux de la campagne présente. Alors, je vous rappelle, on est toujours en compagnie d'Hébert Dufour dans Tachereau, Patrick Huot dans Vanier et Sarah Perrault dans Chauveau, tous trois candidats du Parti libéral du Québec, à l'animation François Gécouillard et Raymond Poirier. En musique, Catherine Durand.
Qui tombe et qui se relève et qui repart encore pour quelques kilomètres. Comme les avions qui s'envolent sans arrêt vers l'avant à 500 pieds à la seconde. Le temps presse toujours un peu plus fort, un peu plus vite. On ne se rend compte de rien, puis on arrive toujours au bout du chemin. Porter avant même d'avoir décollé pour un voyage pour lequel on n'a pas payé. Le temps presse toujours un peu plus fort, un peu plus vite. On se rend compte de rien, puis on arrive toujours au bout du chemin.
D'entendre Catherine Durand avec la pièce Le temps presse, toujours à l'antenne de CKRL 89.1, et on se dit toujours, en fait, même si on a une heure, ben le temps, il presse toujours. Et ben, à l'animation, bien entendu, François Gécouillard, moi-même, Raymond Poirier, on est en compagnie de Sarah Perrault, Patrick Huot et Hébert Dufour, candidat du Parti libéral du Québec. Et je vous lance une question que j'ai lancée à toutes les autres formations également. Donc, on voit la crise économique, tous les gouvernements, tous les partis nous disent, regardez, on est bien placés pour régler la situation. Je vous demanderais peut-être en une minute et demie à peu près de me vendre votre salade, de me dire pourquoi un gouvernement libéral serait meilleur qu'un gouvernement péquiste, un gouvernement Québec solidaire, qu'un gouvernement vert ou adéquiste pour gérer la crise économique. Alors brièvement, en une minute et demie à peu près.
Bien, je vous dirais qu'avec notre plan, on a dit dès le début que la priorité c'était l'économie, notre slogan le dit. Puis je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a à offrir nous autres, mais c'est, on a proposé un plan, on a une équipe à proposer avec des mesures pour traverser la période de turbulence. L'objectif qu'on a dit clairement, c'est de protéger les emplois. Ce qu'on veut, c'est protéger les emplois des gens, puis d'en créer des nouveaux aussi avec tous les travaux d'infrastructure qu'on a annoncés par le passé. On a annoncé qu'on allait augmenter les travaux d'infrastructure, et ça, c'est partout, c'est dans toutes les régions du Québec. Juste pour la région de la Capitale-Nationale, tous les travaux d'infrastructure, ça représente 7000 emplois. Donc, je vous dirais que c'est pas rien. C'est quelque chose de très important. Ce qu'on dit depuis le début, ce qui est primordial, c'est que le plus de gens possible reviennent à la maison avec un chèque de paye. Donc, c'est ce qu'on veut faire pour les gens du Québec, pour les gens de Québec principalement. On veut mettre des gens sur le marché du travail. En parallèle à ça, il faut être conscient qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre spécialisée aussi. Donc, il faut s'assurer d'attirer plus de gens à Québec, plus de jeunes aussi à Québec. Moi, j'en ai fait une de mes priorités. J'ai 33 ans, donc j'essaie de parler au niveau des jeunes. Et on l'a dit, le Québec, maintenant, on garde nos immigrants, les gens qui arrivent, on est capable d'aller en chercher plus. On a mis la priorité sur ceux qui sont déjà des étudiants étrangers qui sont ici, qui sont déjà intégrés ici, qui ont déjà passé 3, 4, 5 ans des fois, pour mettre une espèce sur pied, une espèce de fast track pour ces personnes-là. Donc, on va attirer plus de gens, plus de jeunes, plus d'entrepreneurs aussi à Québec. Donc, on va protéger les emplois, on va en créer des nouveaux, puis on va stimuler l'économie avec ça.
Donc, stimuler l'économie avec les infrastructures. D'ailleurs, récemment, Lévis se plaignait qu'il n'y avait rien pour eux. Chaque parti venait à Québec pour faire avancer les millions pour la ville, mais rien pour Lévis. Lévis se sentait délaissé. Et là, surprise, coup d'éclat hier. Donc, le Parti libéral annonce un plan d'infrastructure à Lévis. Est-ce la construction d'un centre de tri, des investissements dans le chantier de la Lévis? Et non, c'est l'agrandissement d'une autoroute. Je trouve ça incroyable parce qu'en plus, on dit que Québec, c'est une ville où il y a déjà beaucoup d'asphalte, beaucoup d'autoroutes, et on décide d'en rajouter encore. Donc, moi, quand Raymond m'a dit ça hier, les bras m'en sont tombés. Donc, je trouve que ça sent un peu l'improvisation. On balance des millions un peu à droite dans des projets. On se dit, ça va faire plaisir aux gens, ils vont voter pour nous.
Avant de répondre directement à votre question, je veux juste ajouter quelque chose. Il y a quelque chose qui est majeur quand on parle d'économie. On a pris deux décisions. Le premier ministre a pris deux décisions qui sont majeures, qui font en sorte actuellement que le Québec n'est pas en récession. La baisse des impôts et la mise en place du programme d'infrastructure, qui sont les deux mesures qui font qu'aujourd'hui, le Québec n'est pas en récession. Donc, c'est majeur. Dans l'engagement que nous prenons aujourd'hui envers les Québécois, c'est de continuer dans ces mesures-là d'infrastructure. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut éviter de faire en période de turbulence économique, c'est de ralentir l'activité économique. Il faut que les gens restent en emploi. Il faut que les gens continuent de consommer. C'est une roue. Alors, le rôle du gouvernement dans une situation comme celle-là, c'est d'investir.
Un peu comme ça s'est fait dans le passé. Dans le fond, on a construit des routes après la grande crise. Dans le fond, on a développé un peu le réseau routier à ce moment-là, des choses comme ça.
On a investi dans nos infrastructures, puis c'est majeur. Non seulement, de toute façon, tout le monde va être d'accord pour dire qu'au Québec, les infrastructures de route sont nécessaires.
Il n'y a pas moyen, de retaper des écoles ou je ne sais pas, de... Pourquoi agrandir une autoroute?
Faisons attention parce que dans ce programme d'infrastructure-là, il y a des rénovations d'écoles, on investit dans nos hôpitaux, on investit dans ce que nous avons d'immobilisation au Québec parce que le programme d'infrastructure, il est varié, il n'est pas que dédié à la réfection des routes ou à la construction de routes. Mais ce qui est majeur dans ce programme-là, c'est qu'on investit, on garde les gens en emploi, puis on génère une activité économique et ça, c'est majeur.
Et Mme Perrault, vous avez mentionné investissement dans des hôpitaux. Je suis certain qu'il y en a qui ont sourcillé à la maison, qui ont dit, mon Dieu, si ça se passe comme le CHUM ou comme l'Hôtel-Dieu de Québec, on est peut-être mieux de pas investir là-dedans. Là.
Faisons attention, l'Hôtel-Dieu de Québec, là, les plans techniques ont été réalisés. C'est un investissement qui est majeur. C'est un hôpital qui a son statut en oncologie depuis 1995. Et il y a déjà un centre de services d'évaluation qui existe, qu'on a bâti, qu'on a rénové, qui est situé tout à côté de l'Hôtel-Dieu de Québec. Et de toute façon, l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est un hôpital qu'il faut rénover.
Je trouve que le Parti libéral fait un peu de jovialisme avec l'Hôtel-Dieu, là, parce que les frais ont explosé.
Oui, en fait, j'ai les chiffres. On dit 175 millions de dollars en 2005, 400 millions de dollars en 2007. Maintenant, c'est à 635 millions de dollars.
Ouais. Et puis, le ministre de la Santé, il dit, 600 millions, c'est une aubaine. Il a dit ça dernièrement.
Faisons attention. Je veux dire, on a évalué le projet, on a fait des évaluations techniques justement pour être capable d'évaluer le coût réel de ce projet-là. Là, on a le coût réel, les évaluations techniques sont faites, puis on va aller de l'avant avec un projet qui est bien fait, qui répond aux besoins, puis qui va permettre à l'Hôtel-Dieu de Québec de rester ce centre en oncologie qui est là depuis plusieurs années. Les spécialistes sont là. L'autre chose, faut pas oublier que si on décidait, comme certains le supposent, de déménager ce centre-là, on doublera pas l'effectif médical. On aurait deux centres hospitaliers. Faisons attention, là. Faut être réaliste. Quand on prend des décisions, faut les prendre concrètement puis dans un contexte qui est réaliste.
Et qu'est-ce qu'on répond à Québec solidaire ou à OPQ qui dit, regardez, faisons-le, mais pas de PPP, pas de partenariat public-privé?
Mais à cet égard-là, c'est que quand même, c'était analysé, la décision a été prise, puis je pense qu'on est rendu à l'étape des plans et de mettre en réalisation. J'aimerais aussi revenir sur le début, quand vous parliez, il y a eu quand même de gros montants d'argent déjà d'investis. On peut pas non plus arrêter le mouvement. L'Hôtel-Dieu de Québec, c'est le plus vieil hôpital en Amérique du Nord. On n'en fera sûrement pas un stationnement pour déménager le tout à Destimoville. On va faire un centre d'accueil avec cet immense hôpital. Ça n'a aucun sens. Vaut peut-être mieux améliorer et ça demeure, moi, comme candidat de Taschereau, l'Hôtel-Dieu est important dans mon comté aussi. Il est là, puis il doit rester là.
Mais il faut quand même admettre que les dépassements de coûts, que les hausses de coûts ont de quoi inquiéter, là.
C'est la question de ce que vous appelez les hausses de coûts, c'est le projet était à l'étape, disons un projet avance comme ça, et dernièrement ce qui a été fait dans le jargon, ce qu'on va dire, c'est le projet clinique qui a été présenté pour voir exactement si c'est en termes d'organisation d'un hôpital, d'un milieu hospitalier, on fait un projet clinique et on fait ce qu'on appelle un PFT, un programme fonctionnel et technique. Pour tout voir la question du bâtiment, comment tout doit être fait. Donc, c'est ce qui a permis d'arriver avec les derniers coûts de 600 quelques millions. C'est avec toutes ces analyses-là, on est rendu à cette étape-là. Et là, on a poussé là, très, très concrètement les besoins spécifiques. Il faut pas oublier aussi qu'on est dans un arrondissement historique. Mmh. Ce qui explique en bonne partie la nécessité d'aller en PPP, en partenariat public-privé. Dans un arrondissement historique comme ça, il y a toutes sortes de critères qui sont présents, questions patrimoniales.
Pourquoi est-ce que les PPP aideraient, justement?
Ben, c'est question du partage des risques. Donc, quand on s'embarque dans ça, il y a peut-être un partage des risques à avoir, et le partage des risques est là avec le privé. Avec quelqu'un qu'on peut avoir certaines, disons, dans un arrondissement historique comme ça, il y a certains critères à respecter. Donc, avec le rôle du privé, les risques sont partagés entre le public et le privé.
Moi, j'ai l'impression que le Parti libéral du Québec, les infrastructures, c'est pas nécessairement leur fort. Il y a aussi un autre projet dont les coûts explosent, c'est le Super PEPS. On en a beaucoup parlé. Donc, à chaque mois qu'on fait rien avec ça, il y a 375 000 $ qui s'ajoutent à la facture. Donc, le recteur de l'Université de Laval qui a dit ça. Ça brêtait tellement ce projet-là que finalement, la Ville de Québec a dû allonger 1 million $ pour faire des études pour lancer le projet. Ils se sont dit, ben, écoute, si personne ne le fait, nous, on va le faire. Vous êtes responsable de ça, vous, Parti libéral?
Non, le PEPS, on peut considérer que le dossier est réglé, entre guillemets. Là, c'est le dossier avance. Là, vous dites, la Ville a avancé 1 million $. Donc, on est à l'étape, il faut faire ces études-là pour aller en plans et devis, pour faire les plans et devis. Il faut faire ces études-là. On peut pas arriver comme ça, dire, ben, voici à peu près ce qu'on veut comme projet. Ben, il y a des coûts reliés aux plans et devis pour permettre d'aller après ça en appel d'offres. Là, c'est là qu'on est à cette étape-là. Tout le monde, il y avait les partenaires, il y avait le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, la Ville de Québec, le PEPS, l'Université Laval. Tout le monde s'est entendu sur la façon de fonctionner. Là, il y a 1 million qui est là pour faire les plans et devis. On s'en va en appel d'offres. Et après ça, c'est là qu'on va être en mesure d'avancer tout ça dans les prochains mois, là.
Je veux juste ajouter aussi que le gouvernement fédéral a confirmé son financement au mois de septembre. Donc, on peut pas dire là qu'il y a des retards qui seraient induits, là. Donc, Patrick a raison, il y a 1 million qui va être investi par la Ville de Québec, qui est un partenaire financier. Là, c'est dans son financement qui est annoncé, qui va nous permettre d'avoir les plans de vie qui devraient être prêts, là. On parle du mois de mars, deuxième étape du projet, qui a été annoncé par le recteur de l'Université Laval. Donc, le projet va de l'avant. Puis il va se réaliser, ce projet-là.
Il faut ajouter aussi que le gouvernement du Québec ne s'est pas traîné les pieds dans ce dossier-là, parce qu'on a annoncé notre participation il y a fort longtemps. C'est le fédéral.
Mais il n'y a rien qui avance depuis longtemps aussi.
Pardon?
Il n'y a rien qui avance
on n'est pas le seul partenaire là-dedans, mais nous, notre portion a été annoncée et on ne sort pas du dossier pour autant. Au contraire, on attend que les autres partenaires puissent faire le boulot, leur partie de travail.
J'aimerais qu'on passe à un autre dossier. Si on reste un peu dans le dossier revitalisation économique de Québec aussi, avant de faire le pont vers d'autres choses, il y a l'Estimoville. En fait, tous les partis en ont fait une de leurs priorités. On sait que ça traîne un peu avec donc le déplacement des fonctionnaires fédéraux qui marchent plus ou moins bien. Il y a d'autres mesures qui sont mises en place, je crois, déjà du côté des Estimoville. De votre côté, comment on envisage cette relance-là? Comment on veut s'assurer que ça va marcher, dans le fond, des Estimoville?
Ben, je vous dirais d'Estimauville, il y avait eu des, tantôt d'entrée de jeu, j'ai parlé de la démarche Accor avec Pôle Québec Chaudière-Appalaches. Il y a le projet Neurocité qui avance quand même, qui a été un des créneaux d'excellence identifiés, la Neurocité dans le secteur d'Estimauville, qui a eu des fonds débloqués dernièrement. C'est en partenariat évidemment avec la Ville de Québec aussi. Le maire Labon m'a suggéré, moi j'y avais suggéré comme conseiller municipal, de lui demander aux fonctionnaires fédéraux d'aller s'installer là. Moi j'ai dit, ben pourquoi, vous avez des bails qui finissent à la Ville de Québec pour des employés, vous pourriez installer des employés de la Ville de Québec. Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire des études aussi. Donc tout ça, le rôle du gouvernement provincial, c'est d'être un partenaire aussi dans ça. Mais je vous dirais que la neurocité, c'est quelque chose qui devrait relancer le secteur. Ça avance, le docteur Maziad, c'est un peu le bébé du docteur Maziad, la neurocité. C'est quelque chose qui avance. C'est pas une démarche qui se règle en quelques semaines, là, on s'entend. Là, c'est quelque chose d'assez gros qu'on veut faire dans le secteur. Donc, on a bon espoir en étant un partenaire avec le bureau de la capitale nationale là, dans le dossier de la neurocité, que ça va contribuer à relancer le secteur d'Estimauville.
Et pour terminer ce bloc-là, et pour faire le pont vers le prochain, où on va parler d'économie et d'économie et société également. Alors, avant d'aller en élection, vous avez pris des engagements au niveau de l'économie sociale, enfin un peu plus de 10 millions de dollars qui est annoncé par le gouvernement Charest à la table économie sociale provinciale. À Québec, on sait que cette économie-là génère plus de 2000 emplois, que ça regroupe 600 entreprises environ, si on exclut le mouvement Desjardins. Au-delà donc de ce 10 millions dont la table d'économie provinciale a dit, regardez, c'est un premier pas, est-ce qu'on prévoit faire d'autres pas, que ce soit provincialement ou même dans la région, pour encourager les entreprises d'économie sociale et en aider l'implantation?
C'est sûr qu'au niveau de tout le secteur que j'appelais tantôt la pauvreté et l'exclusion, le gouvernement, on est le Parti libéral, c'est-à-dire, est partenaire de tous avec les organismes. Mais aussi, c'est qu'il faut dire qu'on a annoncé qu'une consultation beaucoup plus large serait faite dès qu'on se remet au travail au gouvernement pour définir les enjeux prioritaires avec les organismes.
Mais je fais juste une petite parenthèse, je ne parle pas d'organismes communautaire, je parle d'entreprises d'économie sociale, c'est des PME au bout du compte, des coopératives, on pense à la Barberie par exemple, donc c'est des entreprises qui sont génératrices d'argent également. Est-ce que c'est, on parlait de développement économique, développement entrepreneurial, est-ce que c'est une piste qu'on compte prioriser dans la région?
Tantôt je vous parlais que Québec a réussi sa diversification économique, mais ça en fait partie, ça c'est tout ça, la diversification économique, on parle souvent d'innovation, on parle beaucoup de technologie à Québec, mais Québec et avant on disait que Québec était essentiellement, c'était la fonction publique qui faisait vivre Québec. Mais quand on parle de diversification, il y a eu des initiatives locales comme ça, des initiatives souvent de jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans des projets comme ça. Ben moi, je vous dis, moi, dès le départ de la campagne, j'ai dit, moi, les jeunes entrepreneurs qui veulent innover, qui ont des idées, je veux les aider. On a annoncé un fonds aussi de 50 millions pour venir en aide à ceux qui ont un fonds d'amorçage d'innovation. Ben il y a des sommes à aller chercher dans ça. Et des jeunes, que ça soit sous forme de coopérative, que ça soit sous n'importe quelle forme, qui ont des bonnes idées, ben on va être là pour les encourager, c'est ça. Ça crée des emplois, comme vous dites. Et oui, il faut être partenaire de ces gens-là. Moi, dès le départ, c'est ce que j'ai dit. Vous avez des idées, vous voulez oser faire quelque chose. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Allons même plus loin que l'innovation, c'est osons. Vous avez une idée, ben je suis avec vous, puis on fonce, on essaye. Puis ça fonctionne ici, dans le secteur où vous êtes, ici, dans Limoilou, on en voit beaucoup de ce type de d'entreprise-là. Ben c'est parce qu'il y a des jeunes qui ont eu des bonnes idées, puis qui sont, ben je dis des jeunes, je prêche peut-être pour ma paroisse un peu, mais c'est souvent avec des gens qui vont sortir du cégep, de l'université, qui décident, qui foncent dans quelque chose. Mais moi, je vais être là pour aider ces gens-là, le Parti libéral va être là, puis c'est essentiel dans une économie locale comme Québec.
Il faut ajouter aussi que on a annoncé que on déposerait 5 millions pour l'entrepreneuriat féminin, quand on sait que l'entrepreneuriat féminin touche beaucoup les services. Donc déjà, c'est un volet là, qu'on vient de mettre en place, qui est tout nouveau.
Alors ben, on termine ce bloc-là, on revient au retour, on reste dans l'économie, économie et société. Alors, toujours en compagnie de Sarah Perrault, candidate dans Chauveau, Patrick Huette, candidat dans Vanier, Hébert Dufour, candidate dans Taschereau, François G. Couillard et moi-même, Raymond Poirier. On se retrouve dans deux petites minutes.
Moyen-Âge, Renaissance, Baroque. À CKRL, la musique ancienne est une tradition, une passion. Le dimanche de 8h à 11h, Continuo vous propose des musiques de tous les genres, venues de partout, dans le temps et dans l'espace. Tendez l'oreille, vivez l'émotion. C'est Denis Grenier qui vous invite.
Avant 9h, tout est possible.
Vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1, l'émission Avant 9h, tout est possible. Raymond Poirier et François G. Couillard avec vous ce matin. Et avec nous, ben, trois candidats donc du Parti libéral du Québec, puisqu'on est en pleine semaine électorale ici à l'émission. Alors, Hébert Dufour, Sarah Perrault et Patrick Huot. Alors, on va parler peut-être un peu d'aide sociale. On parlait donc d'économie et société. Je pense que c'est une situation. Dans votre plateforme notamment, vous dites que vous cherchez à faire retourner dans la capitale nationale 6600 prestataires d'aide sociale sur le marché du travail. On sait aussi les besoins en emploi ici dans la région, alors c'est une source d'employés, si on peut dire. De quelle manière, par exemple, vous comptez vous y prendre pour aider ces gens à retourner sur le marché du travail, pour les inciter à y retourner?
Moi, je vous dirais tout d'abord que depuis qu'on est là, c'est 20 000 assistés sociaux qu'on a retournés à l'emploi par des mesures d'accompagnement et de soutien. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là, souvent, ont besoin d'accompagnement pour retourner sur le marché du travail. C'est pas vrai qu'en criant bingo, ces gens-là vont se retrouver en emploi. Il faut être réaliste, puis il faut être conséquent aussi.
Justement, c'est quoi ces mesures-là que vous avez prises pour les retourner en emploi?
Ben, c'est des mesures d'accompagnement. Je veux dire, ils travaillent avec soit des mesures Carrefour Jeunesse Emploi qui met d'avant des projets pour les accompagner dans des activités, je dirais, d'employabilité. Là, des fois, on part de loin. Des fois, on part de gens qui ont besoin d'encadrement davantage pour le matin fonctionner, avoir un horaire précis, etc. Donc, il y a des mesures qui sont mises de l'avant, puis après ça, avec Emploi Québec, on trouve des emplois, on fait du mariage avec ces gens-là, soit on les envoie en stage, soit on leur fait participer à des activités.
Pour remettre 6 000 personnes sur le milieu du travail, qu'est-ce que vous allez faire de plus là, par rapport les carrefours d'emploi sont là?
N'oubliez pas qu'il y a une mesure aussi d'augmentation du salaire minimum qui est quelque chose qui est quand même intéressant. On veut l'augmenter jusqu'à 10 $ dans les prochaines années, ce qui est quand même une mesure assez importante qui peut être un encouragement aussi. Au bout de l'année, ça a un impact assez important sur un salaire annuel, là, quand on parle d'augmenter le salaire minimum d'1 $ comme ça, 1 $ de l'heure. Donc, c'est une mesure d'encouragement au travail également. Il ne faut pas l'oublier, celle-là.
Il faut ajouter aussi la mise en place du pacte de l'emploi. C'est une mesure incitative et non pas coercitive, mais actuellement qui donne ses fruits et qui va se poursuivre.
Et peut-être concernant l'aide sociale, est-ce qu'on envisage aussi d'augmenter le filet du côté des organismes d'aide? On dit 571 $ en moyenne, c'est pas suffisant quand on est à l'aide sociale pour payer son appart et sa nourriture. Est-ce qu'on envisage d'augmenter ce filet-là aussi?
Bon, faut dire que maintenant, tous les gens qui reçoivent cet appui vont recevoir une pleine indexation. Il faut penser qu'auparavant, il y avait les gens non aptes à l'emploi qui recevaient une indexation pleine, mais les autres recevaient la moitié. Maintenant, c'est tous les gens vont recevoir une pleine indexation. Donc déjà, c'est de l'argent de plus dans leur poche, comme on dit.
Et au niveau du salaire minimum, une crainte que certains peuvent avoir, c'est que si on augmente quand même pas mal le salaire minimum, bien entendu, ça va avoir un effet domino. Tout le monde un peu va augmenter proportionnellement. Est-ce que ça risque d'avoir un impact négatif au bout du compte sur l'économie avec le départ d'entreprise si on n'est pas compétitif au niveau mondial, dans le fond?
Ce qu'on dit de l'économie, une bonne partie de l'économie fonctionne par la consommation. Donc, en faisant ça, on crée un peu plus de richesse, donc plus de consommation dans la population. Donc, c'est quelque chose normal qui devrait stimuler l'économie et non nuire à l'économie.
Puis, il faut ajouter aussi que pour les gens qui sont à l'aide sociale, on a accepté une demande des groupes sociaux pour qu'il y ait une gratuité des médicaments, ce qui est accepté maintenant aussi. Donc, c'est un appui de plus là, pour que les gens puissent, comme on dit, être capables de consommer davantage et de payer leur logement et leur nourriture.
Et c'est un peu pour ça, j'imagine, vous avez des mesures à proposer au niveau du logement social. Il y en manque dans la région de Québec de coopératives d'habitation, d'HLM, donc de logements sociaux.
Oui, déjà, on avait un plan annoncé de 2446 logements. Là-dessus, il y en a 1985 qui ont été livrés et il en reste pour la région 461 en voie de réalisation. Donc, c'est sûr, c'est pour la globalité de la région, mais c'est un gros effort actuellement.
Oui, parce qu'en fait, je pense selon le Frappré aussi, il faut dire que le recensement 2006 révélait qu'il y avait près de 450 000 ménages québécois qui, eux, devaient consacrer 30 % de leurs revenus au logement, que pour un peu plus de 200 000 d'entre eux, c'est la moitié du revenu qui passe au loyer. Donc, outre le logement social, est-ce qu'on prévoit aussi essayer de mettre des mesures de contrôle du prix des loyers? Parce qu'il y a littéralement actuellement une explosion de ces coûts-là, et dans le fond, ce qui est criant pour 450 000 familles québécoises, mais peut-être encore plus pour d'autres aussi, si on bonifie à quoi, 20 % aussi. Bref, qu'est-ce qu'on fait pour contrôler? Est-ce qu'on veut mettre en place un registre des baux ou quelque chose du genre?
Il y a déjà, il faut penser que la régie de logement existe avec ses normes et règlements, et même à chaque année propose des augmentations et qui sont souvent aussi contesté par les gens s'ils jugent que c'est inapproprié.
Mais il y a peu de gens qui le font, par exemple. Ça, les groupes logements nous le disent. Et c'est pas des mesures, dans le fond, c'est des mesures de suggestion, mais c'est pas des mesures d'obligation non plus. Alors, il y a des gens qui vont choisir plutôt d'acheter la paix, peut-être de pas nécessairement aller devant la régie. C'est un processus qui est quand même lourd.
Peut-être le message qu'on doit passer, c'est que les gens devraient y aller, parce que des fois aussi, le propriétaire peut acheter la paix, ne se présente pas toujours. Et moi, j'ai le cas de mon fils qui l'a fait, et il a gagné son point avec aucune augmentation au bout de la ligne.
Mm-hmm. Ah ben vas-y, je te laisse lancer la prochaine perche, François.
Oui, donc là, on parle dans la section aussi de santé, donc éducation, culture. Donc peut-être que lancer une question à Monsieur Dufour au sujet de la culture. Vous sembliez tout à l'heure content qu'on vous pose des questions là-dessus. Donc, vous avez proposé au Parti libéral d'éliminer la TVQ sur les produits culturels québécois. Donc, ça a été il y a des gens qui expriment des doutes sur la validité de cette mesure sur le droit international. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un produit québécois d'un autre? Si, mettons, c'est un malgache qui est installé au Québec, qui chante en polonais, qu'est-ce qu'on fait?
Quand on parle, on vient d'annoncer qu'on enlevait la TVQ à tous ces produits-là. C'est que je pense qu'on va avoir sûrement l'intelligence de mettre des normes et des règlements et d'analyser ça avec les gens en place au niveau de la culture.
Des mots de tête. Moi, ce que je propose, c'est peut-être, pourquoi pas tout simplement d'éliminer la TVQ sur tous les produits culturels?
C'est parce qu'on veut inciter Achetons Québec. On veut inciter aussi création d'emplois. Donc, si on a des artisans et des artistes qui produisent, il faut qu'il y ait des acheteurs au bout de la ligne. Et votre exemple tout à l'heure, si votre votre Marocain ou quelque chose est un Québécois, c'est extraordinaire qu'on puisse avoir des artisans originaires d'autres pays qui vont venir influencer notre forme d'art.
Mais la question en fait qui était soulevée par rapport à ça, et plus précisément, c'est donc de la part des organismes culturels, c'est que la mesure annoncée profite principalement aux intermédiaires, aux grandes industries culturelles également, à ceux qui vendent beaucoup. Veux pas, la mesure aurait plus profité à Marie-Hélène Thibert que profiter au chanteur qui en a réellement besoin parce que lui vend pas beaucoup et lui a besoin de cet appui-là parce qu'il n'a pas encore percé. Donc, l'appliquer sans distinction, ça va favoriser les gros de la culture et ça va peut-être venir peu favoriser ou pas favoriser, dans le fond, les petites industries culturelles qui sont eux qui en auraient besoin, dans le fond.
C'est une manière d'encourager l'industrie culturelle québécoise. Je vous dirais, c'est un incitatif pour la population à peut-être consommer davantage de culture québécoise. Si vous achetez un disque, vous allez voir un spectacle d'Ariane Moffat, par exemple, ben vous paierez pas de taxes dessus. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose qui peut faire une différence certaines personnes. Au bout de l'année, si vous allez voir toutes les pièces de théâtre que vous allez aller voir, les disques que vous allez acheter, le spectacle d'humour que vous allez aller voir, mais vous allez sauver les taxes là-dessus. Mais si on fait ça pour l'industrie culturelle québécoise seulement, donc je pense que c'est quelque chose qui a été bien accueilli en général, qui qui est une excellente mesure, à mon avis.
Il faut ajouter que c'est quand même 4 milliards d'argent dans l'économie, 100 000 emplois qui sont touchés par ce projet-là. Et je pense qu'on n'est pas ici pour faire des catégories dans les artistes. C'est sûr qu'on a des fers de lance là-dedans comme ailleurs, mais les jeunes créateurs vont aussi recevoir leur dû. On sait très bien qu'il y a des programmes même pour l'Europe et tout, ils peuvent nous représenter et dans tous les différents festivals. Donc ça va sûrement les appuyer eux aussi.
Au niveau culturel aussi, il y a quelque chose d'essentiel dont il faut parler. Je pense que c'est le sommet Horizon Culture aussi. Je sais que monsieur Dufour en fait quelque chose de très important. Le maire Labeaume l'a identifié comme étant un enjeu de ce qu'on a appelé la liste d'épicerie du maire Labeaume, qui veut des retombées concrètes du sommet Horizon Culture et de faire de Québec la capitale de la relève artistique. Donc, après ça, ça va permettre à des jeunes talents de se faire connaître. La mesure d'abolition de la TVQ va s'appliquer aussi à ces jeunes talents-là qui vont sortir, donc on peut juste ça peut juste être utile.
Puis il faut ajouter aussi que dans notre projet culture, il n'y a pas seulement la TVQ. On va hausser de 10 millions récurrents le soutien à la production et à la relève cinématographique. On vient de toucher les jeunes, là. À bonifier un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle, à encourager la production en région grâce à une bonification de 10% pour les productions sans financement public direct produit en région et à attirer davantage de tournages européens et coproductions québécoises. Donc, voyez, là, c'est un ensemble, là.
Et peut-être on fait le pont de la culture au patrimoine. Il y a plusieurs craintes qui ont été amenées à la gestion qui est faite du patrimoine dans la grande région de Québec. Plusieurs lieux d'intérêt historique qui sont transformés en condos, qui sont mis de côté. On pense à l'église également, Saint-Vincent-de-Paul et tout le débat qui l'entoure. Rabaska également qui met en danger, semble-t-il, le patrimoine visuel, le patrimoine environnemental de Québec. Il y a des gens qui ont été à l'UNESCO pour soumettre des questions face à ça. Alors, quel regard on porte sur le dossier?
Je suis content que vous posiez cette question-là parce que depuis janvier 2008, je suis devenu muséologue. Donc, c'est un secteur que je tiens à cœur. Premièrement, quand on parle de patrimoine, Mme Saint-Pierre avait préparé un projet de loi sur la définition et du genre de normes pour le patrimoine. Parce que sachez que partout dans le monde, il n'y a pas de notion comme telle de patrimoine. Ça appartient à une société de définir ce qu'est un patrimoine. Mais tout ce que moi je peux vous dire, un édifice patrimonial, parce que si on parle du bâti, c'est un élément qui doit être significatif dans la commune, dans la communauté. Donc, c'est sûr que on n'était pas très vigilant peut-être à l'époque. Maintenant, on est tous très éveillés. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que le Parti libéral va suivre ces dossiers-là de très près.
J'ajouterais aussi, si vous me permettez, toute la mise en place du patrimoine religieux qui a été fait par le gouvernement du Parti libéral, qui a été majeur, parce qu'au Québec, on sait qu'on a un patrimoine religieux extrêmement important à cause de notre histoire. Donc, il y a eu une vaste consultation qui a été faite entre 2003 et 2007 sur le patrimoine religieux. On l'a fait en plus dans toutes les régions du Québec pour après ça mettre en place un soutien au patrimoine religieux. Quand je passe dans Saint-Roch pour aller au bureau, je passe devant une église où on voit affiché qu'il y a un soutien financier au patrimoine religieux. Alors c'est important et ça fait partie de notre histoire. Mm-hmm.
Et écoutez, le temps file, il faudrait parler au moins un peu d'éducation, c'est quand même important. Donc ce qui arrive, c'est que le Parti libéral a déjà dégelé les frais de scolarité. Là, actuellement, on parle de les indexer. Qu'est-ce que ça représente exactement comme différence pour l'étudiant?
Au fond, ce qu'on a fait, c'est que on a augmenté les frais de scolarité. On l'a fait à raison de 50 $ par session. C'est un investissement, mais c'est un investissement de l'étudiant. Mais ce qui est important, puis ce qui est majeur, c'est qu'on est venu bonifier le système de prêt et bourse pour maintenir l'accessibilité. Et là, ce qu'on annonce, c'est qu'on va indexer ces paramètres de prêt et bourse-là.
C'est quoi la différence en termes de dollars?
Ça, je vous dirais, j'ai pas les chiffres avec moi, puis je voudrais pas, c'est qu'on indexe au coût de la vie l'aide aux étudiants. Donc, il n'y a pas de perte de revenus, c'est qu'on maintient l'aide financière aux étudiants. Donc, c'est majeur, ça vient renforcer, je dirais, l'accessibilité, puis ça supporte ceux qui en ont vraiment besoin aussi, parce que, oublions pas une chose, c'est que pour ceux qui ont les moyens d'avoir accès aux études, ben on supporte ceux qui en ont vraiment besoin.
Il y a des partis qui proposent aussi la gratuité dans ce sens-là, qui disent, regardez, si on joue un peu avec les impôts, qu'on gère mieux les impôts des plus riches, on pourrait aller chercher la gratuité au niveau de l'éducation et se l'offrir en tant que société, plutôt que d'endetter, dans le fond, une génération de jeunes qui s'en vont sur le marché du travail. Quel regard un peu on porte là-dessus?
Québec est déjà, les frais de scolarité au Québec sont très bas comparativement à ce qui se fait en Amérique. Là, faut le souligner, c'est majeur. L'autre chose que dirais, c'est qu'il y a un investissement.
Tant mieux.
Oui, tant mieux. Oui, je ne dis pas que je suis contre, mais au contraire, tant mieux. Alors voilà, il y a un investissement qui est fait de la part de l'étudiant, il y a un investissement qui est fait de la part de la société globalement, parce que quand on investit dans nos universités, on investit aussi dans l'avenir de nos jeunes. Et moi, je pense que c'est un juste équilibre et que c'est parfait comme ça.
Il faut ajouter aussi que la gratuité est quand même rendue jusqu'à l'université. Au collégial, on parle de frais afférents et non pas de scolarité. Et à l'université, il faut penser que quelqu'un qui va sortir avec un diplôme universitaire va être peut-être capable de payer ses frais. Moi, je suis de la première génération qui s'est endettée et ça m'a pris 8 ans, une fois sur le marché du travail, pour payer mes prêts que j'avais faits lors de mes études universitaires. Et j'en suis fort heureux. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Peut-être que sortir avec un diplôme et d'être capable d'être productif dans la société, ben, c'est déjà un acquis pour la société.
Je veux juste ajouter que la ministre de l'Éducation on a adopté un règlement pour l'encadrement des frais afférents qui vont être négociés aussi avec les associations étudiantes pour que ça corresponde vraiment à des frais afférents. Et ça, c'est un engagement qu'on avait pris, qu'on a respecté.
Alors, bien là-dessus, on va aller en musique, prendre une petite respiration. On en revient avec un dernier sprint thématique et les questions en rafale par la suite aussi dans le dernier bloc. Alors, toujours en compagnie de Hébert Dufour, candidat dans Taschereau, Sarah Perrault, candidate dans Chauveau, Patrick Huat, candidat dans Vanier, Raymond Poirier et François Gécouillard au micro. En musique, on écoute Franck Martel.
Les secondes s'affilaient à la vitesse où elles filent. Elles deviendraient bien vite pointues comme des aiguilles. L'anguille va se reproduire dans la mer des sargasses qui va à la chasse vers sa place. Baume spirale, allume le sternum, petite fleur rose du géranium. Moult tumulte, hume la croûte, escamote le la marmotte est montée en haut de l'escabeau. L'anguille va se reproduire dans la mer des sargasses qui va à la chasse vers sa place. Paume spirale, allume le sternum, petite fleur rose du géranium.
Et voilà, on a entendu Franck Martel avec la pièce qui va à la chasse. Toujours à l'antenne de CKRL 89.1. Vous écoutez avant 9h, tout est possible. Spécial semaine électorale. 3 candidats du Parti libéral du Québec pour terminer la semaine. Patrick Huat, Sarah Perrault et Hébert Dufour. Et ben pour le dernier bloc thématique, on va se lancer un peu sur l'environnement, peut-être ouvrir ensuite sur la santé. Au niveau de l'environnement, mais moi ça m'amène à me parler de transport. Deux dossiers que j'aimerais parler. Premièrement, on parle du réseau de transport.
transport en commun à Québec, vous l'avez dit en début d'entrevue, en début d'entretien, qui doit être amélioré, qui doit être encouragé. De quelle manière on compte encourager peut-être ce développement-là dans la région de la capitale nationale? Comment on fait pour le bonifier, là, notre réseau de transport en commun?
Ben, il y a toutes sortes de projets. Bon, à la base, on a deux sociétés de transport, le RTC et à Lévis, la STL. Donc, il y a un projet avec les voies réservées, entre autres, là, qui sont à l'étude. Il y en a une nouvelle sur Robert Bourassa. Il y a un projet sur la Rive-Sud qui est à l'étude présentement, d'un centre d'échange sur la Rive-Sud. Il y a des études qui sont faites pour continuer une voie réservée sur le boulevard Laurier aussi. Donc, c'est tous des projets qui vont être là pour bonifier, pour faciliter le transport, ce qu'on appelle plus le transport métropolitain entre les deux rives aussi, ce qui est quand même assez important. Donc, tous les programmes que le ministère des Transports a mis en place au cours des dernières années pour venir en aide aux sociétés de transport, ça va se poursuivre, que ce soit pour financer l'achat d'autobus. Le RTC a acheté des autobus articulés, mais sont financés, de mémoire, je pense que c'est à 75% par le ministère des Transports. Le garage du RTC qui est en train de se construire, mais c'est financé par le ministère des Transports.
Et avec tout ça, on va aller mieux appuyer, dans le fond, mieux desservir les banlieues de première, deuxième couronne, dans le fond.
Bien, là, on met l'accent, disons, actuellement, les trajets qui fonctionnent le mieux à Québec, c'est le 800-801 et le numéro 7 aussi. 800-801 sont à pleine capacité, à doubleur, à tripleur à l'occasion même sur certaines heures de pointe. Ben là, dans les prochains mois, prochaines années, mais on va avoir des autobus articulés, donc beaucoup plus d'espace pour transporter des gens, ce qui va dégager des autobus pour la deuxième, la troisième couronne, pour les banlieues, ce qui va permettre d'offrir un meilleur service ailleurs pour que tout le monde puisse avoir accès au transport en commun. Dans un monde idéal, si vous avez accès à un arrêt d'autobus à environ 400 mètres de la maison, c'est sûr que quand vous êtes plus dans la partie nord où est-ce qu'il y a moins de maisons au kilomètre carré, ça devient un petit peu plus complexe. Mais là, les banlieues, de plus en plus, dès que vous sortez du centre-ville, vous avez accès à un autobus à une distance à pied, si vous voulez. Donc, ça va être de poursuivre ça. Ça, c'est les réseaux de transport locaux qui organisent ça. Mais le ministère des Transports vient en soutien avec tous les programmes qu'il a mis en place pour ceux que je vous ai nommés, l'achat d'autobus, les voies réservées, les garages, tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de financement qui est disponible pour aider le transport en commun à Québec.
J'ajouterais que tous ces investissements-là s'inscrivent dans la première politique québécoise sur le transport collectif qui a été annoncée en juin 2006, qui donne 4,5 milliards de dollars sur 5 ans. Alors, toutes ces initiatives-là qui sont prises avec les réseaux de transport en commun sont faites à l'intérieur de cette politique-là, et c'est la première politique, c'est la politique pour offrir un meilleur choix aux citoyens.
Donc, c'est majeur. On parle d'environnement, on parle de transport en commun. Il y a un truc ici à Québec qui est très important qu'on pose la même question à tous les partis. Donc, c'est au sujet de l'incinérateur. Donc, l'incinérateur il y a un relevé en septembre qui a révélé qu'il y avait 20 fois la norme de dioxyde de furane, 5 fois celle de monoxyde de carbone. Donc, ça rejette du poison dans l'atmosphère et ça met en danger la santé des citoyens. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on fait autre chose avec l'incinérateur?
C'est une excellente question. J'ai vu ces choses-là passer. Moi, je suis au conseil municipal aussi. Je sais que la conseillère Anne Beaulieu, ben, vous êtes touchée directement ici, étant dans le secteur là, de l'incinérateur. Je suis obligé de vous dire que moi, c'est pas un dossier que je connais beaucoup. J'ai beaucoup entendu Anne Beaulieu, qui est la conseillère ici du secteur, en parler à la ville. Je sais qu'il y a un comité de vigilance sur l'incinérateur, qu'il y a plusieurs choses qui sont faites. Il va devoir avoir des décisions qui vont devoir se prendre, mais là, c'est un peu trop tôt et c'est pas, je vous dirais que c'est pas un dossier que je maîtrise très bien pour pouvoir vous dire exactement vers où on s'en va avec ça.
Vous, personnellement, là, en tant qu'être humain, là, est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Là? Je sais que vous n'avez pas pris position dans votre parti, mais vous-même, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je vous disais, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça inquiétant. C'est sûr, quand on se dit, moi, j'ai deux jeunes enfants, je me dis, être avec mes enfants, là, dans le secteur, je trouverais ça inquiétant. C'est pas quelque chose qui est très, très rassurant. Mais là, de voir, c'était des choses assez techniques, là, de voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Je suis pas positionné pour voir qu'est-ce qu'il faut faire à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est quelque chose qui est assez technique, assez complexe, là. Donc, de prendre position, c'est très embêtant.
Parce que ça a amené des constatations assez troublantes. On se rappelle en fait, on se rappelle probablement tous ce rapport de la direction de la santé publique de la capitale nationale qui avait noté, je pense qu'à Limoilou, il y avait une espérance de vie de 7 ans moins longue quand on habitait dans le secteur ici que quand on habitait dans la Haute-Ville de Québec. Donc, entre autres, pour des considérations de pollution, pour des considérations de pauvreté également. C'est le genre d'équilibre qu'il va falloir rétablir parce que ça, c'est des situations qui n'ont juste pas de sens, il me semble.
Et je pense qu'il faut que ça s'inscrive aussi dans toute notre gestion des matières résiduelles. Il faut continuer le recyclage, il faut investir, continuer d'investir. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises par les municipalités, qui sont accompagnées par le gouvernement du Québec, puis il faut travailler dans ce sens-là. Ça nous démontre encore une fois à quel point on doit travailler dans des mesures qui sont plus... qui respectent l'environnement, etc., mais on peut pas tout changer nos façons de faire.
Mais le problème, en fait, c'est que c'est touché aussi par la crise. Veut pas le recyclage. On en parle d'ailleurs ce matin dans les médias. On en a parlé la dernière semaine que, il n'y a plus de débouchés pour ce papier-là. Donc, il y a des entreprises sur la Rive-Sud, des entreprises à Québec et au Québec qui sont pognées avec ça, qui ça va retourner dans le fond au dépotoir. Donc, on a l'impression qu'on recycle, mais économiquement, on peut plus le faire non plus. Est-ce que votre parti s'est posé un peu la question?
Moi, je vous dirais que c'est une réflexion qui est collective. Il faut trouver des débouchés pour le recyclage. Il faut travailler sur des solutions. Recycle Québec travaille sur des projets de recyclage. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas jeter la serviette. Au contraire, tu sais, il faut continuer de travailler. Il faut le faire à différents niveaux.
Puis il faut ajouter que cet élément-là a grossi avec la ville de Québec. On parle des années, mais on est rendu à un point où on a beaucoup de consommation et il y a beaucoup de déchets toxiques qui n'étaient pas là ou du moins autant dans le passé. C'est un problème de notre société actuellement. Puis je pense que quand on parle de qualité de vie, le Parti libéral en parle beaucoup et je pense qu'on est sûrement aux aguets par rapport à ça.
Il faut soutenir des initiatives locales. Là, je vais vous donner un exemple à Lac-de-Lage actuellement. Il y a un projet de recyclage et de compostage qui fonctionne très, très bien. C'est une initiative locale. Il faut soutenir ces initiatives-là parce que souvent, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui vient du milieu, qui est adapté à la réalité des gens. Donc, il faut travailler toujours en accompagnant les initiatives locales. Moi, je pense que ça, c'est une formule qui est souvent gagnante.
C'est encore toute la question de la réduction à la source. Là, il y a un projet avec la... Je veux pas revenir encore sur la ville de Québec, mais donc c'est des projets qui sont soutenus par les autres ordres de gouvernement. Aussi, il y a un projet pilote actuellement pour avoir une collecte des matières putrescibles. Donc, on va réduire à la source. Donc, c'est de réduire ce qui va s'en aller à l'incinérateur aussi. Donc, il y a toutes sortes de projets comme ça qui avancent. C'est un domaine quand même assez jeune, donc il y a des ajustements évidemment à y avoir en cours de route.
Ouais, mais pas tout si le monde, ça, mais bon.
Pas si jeune que ça, mais si on compare à d'autres domaines, disons que il y a des changements importants au cours des dernières années. C'est en évolution, donc tout le monde s'ajuste, tout le monde veut. Ça fonctionne, ouais. Donc tout le monde met des efforts dans ça.
Tout le monde veut que le recyclage fonctionne, mais ça fonctionne pas très bien. Sinon, si on continue, évidemment, les déchets, ça concerne la santé. Donc, selon le ministère de la Santé, le temps d'attente sur civière est aujourd'hui le même qu'en 2003, lorsque vous aviez été élu. Donc, en 2003, je me rappelle que vous aviez fait un long bout de chemin sur le temps d'attente dans les hôpitaux. Ben, d'ailleurs, selon une chronique d'aujourd'hui dans le Soleil, ça fait depuis les années 70 que c'est la même chose. Donc, chaque parti, c'est un argument électoral pour se faire élire le temps d'attente dans les hôpitaux.
Et ce matin, on apprenait que M. Charest disait, regardez, on espère même plus baisser le temps d'attente en bas de 12 heures d'ici 2010. Alors, comme quoi, on revient en plus sur ces promesses-là, finalement. Quel regard vous portez un peu sur la situation, peut-être pour terminer ce bloc-là, là, au niveau de la santé, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a réellement eu des gains qui ont été faits au niveau libéral depuis 2003?
Ben, moi, je vais peut-être ajouter un élément là, dans cette discussion-là, c'est que peut-être qu'on parle toujours du temps d'attendre, mais on regarde jamais est-ce qu'il y a eu augmentation de clients, entre guillemets, parallèlement, là, on prend toujours un chiffre, on ne tient pas compte de l'autre. Donc, oui, il y a eu des choses qui se sont faites, il y a eu amélioration. On ne dit pas qu'on a atteint l'idéal, mais je pense que le mouvement est parti. J'écoutais même des gens du milieu dire, attendez, il y a des choses en place, attendez que la route tourne vraiment. Parallèlement, il faut penser que à la suite, on ne reviendra pas là, des coupures du Parti québécois, mais on forme quand même plus d'infirmières.
Ça, c'est de la démagogie, ce que vous faites là. C'est reprendre l'argument que de mettre ça sur le dos du Parti québécois, les problèmes de santé.
Je vais continuer.
C'est ce qu'on appelle la démagogie.
Oui, mais c'est pas de la démagogie, c'est une réalité. Il faut penser qu'il y a des clients, je vais prendre un client ou des patients, qui souffrent de ce manque-là aujourd'hui. Donc, mais pour bonifier, nous, ce qu'on a fait, premièrement, la formation, on l'a augmenté autant pour les infirmières que les médecins, mais aussi, c'est qu'on donne, on a redoré, on pourrait dire, la, la profession infirmier, de 3 000 $ pour les infirmières qui vont prendre du service pendant les 3 premières années, ou 2 000 $ pour les auxiliaires, et de garder aussi en service les retraités qui seraient aptes à la retraite, en bonifiant, en leur donnant un bonus de 8 000 $ tant et aussi longtemps qu'elles voudront demeurer sur le marché du travail. Donc, on essaie aussi, oui, il y a de l'attente, mais il faut avoir la main d'œuvre à point pour être capable de répondre à ça aussi.
C'est ça. L'enjeu dans le secteur, on a parlé tantôt en économie de la pénurie de la main-d'œuvre, mais c'est particulièrement vrai dans le domaine de la santé. C'est la question de l'accessibilité à un médecin, entre autres. Mais ça prend 10 ans de former un médecin. On a augmenté les cohortes de médecins dans les universités. Là, ils sortent tranquillement là, des universités, ces médecins-là, depuis qu'on est arrivé. Il y en a plus, il va en avoir plus. On veut mettre l'accent sur la médecine de famille, encourager les médecins, ceux qui étudient, les étudiants en médecine, à aller vers la médecine familiale, donc de redonner, si on veut, les lettres de noblesse à la médecine familiale, donc d'avoir plus de gens. Les jeunes médecins aux études aujourd'hui veulent beaucoup se spécialiser, mais on manque de médecins de famille, donc il faut encourager ça. On remet plus d'infirmières aussi, donc la question de la pénurie de la main-d'œuvre dans le domaine de la santé, c'est majeur, donc c'est à ça qu'on s'attaque. Les gens nous disent on a besoin d'un médecin de famille, mais on va augmenter les groupes de médecine de famille. Le fonctionnement des groupes de médecine de famille, c'est que vous êtes inscrit dans un groupe de médecine et vous avez accès au groupe de médecine. En étant inscrit, il y a eu des modifications là, de la façon de fonctionner avec les questions de paiement avec les médecins. Quand vous êtes inscrit, il y a tout un système qui a été mis en place pour ça. Donc, c'est à l'avantage de tout le monde, du médecin et du patient qui est inscrit auprès du médecin de famille. Ça lui donne un accès beaucoup plus rapide au médecin de famille. Et là, il en manque encore, sans dire sur le marché, là, mais dans le milieu, il manque encore de médecins de famille. Donc, en formant plus, en donnant de l'importance à la médecine familiale, mais c'est sûr que c'est pas demain matin qu'il va y avoir des médecins partout.
Oui, aussi, il faut ajouter que on va pratiquement doubler ces groupes de médecine familiale. Actuellement, on est rendu à 178, puis on va les porter à 300. C'est sûr que on peut dire on va les porter à 300, en autant qu'on aura les médecins aussi qui vont accompagner cette augmentation-là. Puis un élément important, on dit qu'on va parler, on va mettre 60% des postes infirmiers à temps plein. C'est quand même énorme, là.
Alors ben, on garde tout ça en tête. En allant en pause publicitaire, je vous rappelle, toujours avec 3 candidats du Parti libéral du Québec. Alors Sarah Perrault, Patrick Huat, Hébert Dufour, à l'animation Raymond Poirier, François G. Couillard. Au retour, on se lance quelques questions en rafale.
Capitaine Caverne présente la 2e édition du championnat d'impro mixte de Québec. 16 improvisateurs s'affronteront dans un tournoi éliminatoire de mixte 1 contre 1. Yves Bernard, Martin Boily, Marie-Christine Bouillon, Simon-Pierre et Sylvain Deraspe, Marie-Soleil Dion, Benoît Gagnon, Olivier Godet-Savard, Benoît Gignac, Corinne Giguère, Daniel Gosselin, Patrick Guérard, David Kelly, Jean-Philippe Lehoux, Éric Marcoux et Pierre Turcotte. 16 joueurs, un seul champion. Le samedi 29 novembre à 20h à la salle Hydro-Québec du pavillon des Jardins de l'Université Laval. Informations et réservations, Capitaine Caverne à commercialvidéotron.ca.
Ah, ça se peut pas faire des films d'animation en 2 jours. Ben oui, ça se peut. Le dimanche 30 novembre prochain, à 18h30, seront projetées les œuvres réalisées dans ces conditions par une 20aine de réalisateurs au Musée de la Civilisation. Le cabaret d'animation Kino est organisé dans le cadre des sommets de cinéma d'animation 7, présenté par Antitube et la Cinémathèque québécoise en collaboration avec le groupe Kiwi City.
Le samedi matin, laissez-vous raconter l'histoire de la musique occidentale du Moyen-Âge à aujourd'hui. De 8h à 11h, laissez-vous bercer par la poésie de l'accrocheur. Avec Hubert de Nicolini, Jean Lecomte et Gilles Chaumet.
Salut, c'est Jean-Philippe Deschênes, je sors de ma boîte un instant et je vous invite à ne pas manquer l'émission Ma boîte à cassette mardi prochain, 14h30.
Non coupable pour cause d'aliénation mentale.
Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.
Avant 9h, tout est prêt.
Raymond Poirier au micro, vous écoutez toujours avant 9h, tout est possible. François G. Couillard qui m'accompagne ce matin. Dernier segment du dernier jour de la semaine électorale qu'on vous a proposé. Alors nous sommes toujours en compagnie de trois candidats du Parti libéral du Québec, Sarah Perrault, Patrick Huot et Hébert Dufour. Et on se lance avec donc nos questions à rafale, questions brèves, réponses brèves. François G., je te laisse commencer.
Donc, commençons, tiens, par quelque chose vraiment sorti de mon chapeau. Du coup, c'est la première fois qu'on va en parler. Donc, le projet de loi 99, donc ça concerne les SLAP, les poursuites de Bâillon. Donc, ça a particulièrement affecté le livre Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Donc, des poursuites de plusieurs millions, centaines de millions de dollars pour des petites gens. Donc, ces gens-là peuvent pas évidemment se défendre. Qu'est-ce que le projet de loi 99? Donc, ce qui a été proposé, c'est de reprendre. Il faut que tous les députés soient d'accord à l'Assemblée. Il doit y avoir une motion qui permet de remettre le projet de loi 99 au stade où il était à la dissolution de la première session de la 38e législature. Donc, ce serait de reprendre, dans le fond, le projet de loi 99 où il a été laissé.
Donc, parce que, dans le fond, en bref, est-ce que vous allez le reprendre où il a été laissé, j'imagine?
Ce que je comprends, là, c'est qu'il y a une volonté là, de l'Assemblée nationale de revenir.
Ben, c'est qu'il faut avoir la volonté des députés. Est-ce que vous seriez prêt à...
Je connais pas le projet de loi 99. Ah, je peux pas vous dire.
OK. En parallèle, on a beaucoup parlé d'un TGV Québec-Windsor. Récemment, dans Le Soleil, on apprenait que le réseau Québec-Montréal, en fait, ce serait pas rentable nécessairement. Ça pourrait causer problème au transport aérien, au transport par autobus. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on le fait pareil? Est-ce que c'est réellement un problème?
La question se pose pas comme ça. Si on fait le TGV, on va le faire Québec-Windsor. Il faut que ça soit fait dans ce corridor-là pour ouvrir Québec. Ça, c'est majeur. Et je pense qu'on est tous d'accord sur...
Et je pense que peut-être mettre un petit peu un bémol sur la rentabilité, c'est pour développer notre économie et avoir une ouverture sur d'autres territoires. Donc, on ne peut pas exclure la ville de Québec dans ce corridor-là.
C'est complémentaire à ce qui existe déjà aussi. Et de toute façon, on sait qu'à terme, ça va se faire. Si ça part de Montréal à Windsor, mais Québec, il faut qu'on embarque. Il faut qu'on prenne le train, comme on dit, là, sans faire de jeu de mots. Il faut absolument qu'on soit dans ça.
Donc, une question peut-être plus particulièrement pour Mme Perrault, puisqu'elle est candidate dans Chauveau. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a des Autochtones Huron-Wendat qui ont construit des chalets dans le parc sans autorisation du provincial. Donc, il évoque un traité de Morée qui date de 1760 pour faire les chalets. Donc, il y a le PQ qui peut-être s'est prononcé. Vous, apparemment, vous êtes refusé de vous prononcer. Est-ce que vous seriez prêt à CKRS aujourd'hui de vous de dire qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai pas refusé de me prononcer du tout. Ce que j'ai dit, c'est qu'il négocie actuellement. Il y a une négociation qui se fait. Ça repose sur le traité de Murray, puis on est sur la définition d'un abri. Il faut se rappeler que le traité de Murray, c'est pas il y a 10 ans, là. Actuellement, ce qu'il faut définir, c'est qu'est-ce qu'un abri. Et pour éviter d'aller au tribunal, on essaie de négocier avec eux. Puis les négociations ont cours actuellement pour essayer de voir comment on peut définir ça, parce que c'est ça le problème. Donc, pour éviter les tribunaux, je pense qu'il faut privilégier la voie de la négociation. C'est ce que j'ai dit.
Vous avez parlé dans votre plateforme régionale de prolonger la promenade Samuel de Champlain. On parle d'un budget d'au-dessus de 60 millions de dollars. Il y a un groupe qui s'appelle la Zone d'intervention prioritaire de Québec et de Chaudière-Appalaches qui dit, ben regardez, tant qu'à investir autant pour la prolonger, pourquoi pas me donner des accès un peu plus diversifiés au fleuve, que ce soit sur la rive nord ou sur la rive sud, donc de créer plus d'accès. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'il y a une volonté vraiment citoyenne. Les citoyens veulent vraiment qu'on prolonge cet accès-là. Quand les gens sont sur la promenade Samuel de Champlain, ils sont déçus qu'elle ne soit pas plus longue. Donc, il faut répondre à cette... je dirais à ce désir-là, puis ça met en valeur le fleuve, c'est magnifique. Tous ceux qui vont là, c'est même un attrait touristique.
Et on revient au projet initial qui avait été présenté. Donc, terminons un projet et on pourra en faire d'autres par après.
Si les groupes ont des propositions à faire, tout le monde est toujours ouvert aux propositions, évidemment.
Donc, dans le programme du PLQ, on parle de faire un bureau de recrutement des étudiants étrangers, et ça, entre autres, d'accélérer l'immigration. J'aimerais savoir, est-ce que ça implique aussi d'une plus grande reconnaissance des études?
Oui, absolument. C'est qu'on essaie, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des étudiants étrangers qui viennent étudier ici. Et notre volonté, c'est d'être capable de les garder ici pour qu'ils puissent continuer. Dans le fond, on les invite à rester chez nous parce qu'on a besoin de main-d'œuvre et parce qu'on est intéressé à les garder. Donc, c'est l'objectif qu'on vise avec ça.
Puis ça fait partie aussi de l'ouverture sur d'autres territoires économiques. Alors, les étudiants qui vont venir ici vont recevoir automatiquement un certificat. Donc, vont devenir opérationnels immédiatement avec leur diplomation universitaire ou collégiale.
Et mettez ça en parallèle avec l'entente qu'on a signé avec la France sur la mobilité de la main-d'œuvre. On a des objectifs de faire des ententes avec l'Ontario, à terme avec toute l'Europe, Canada, Europe, le reste du Canada. Donc, c'est toutes des choses qui vont assurer une main-d'œuvre spécialisée là, au Québec.
Au niveau de l'Action démocratique du Québec, au niveau du Parti libéral du Québec, on a promis pour la ville Internet sans fil. Du côté de l'ADQ, on parle de 16 millions de dollars de budget. Du côté libéral, on parle de 1 million de dollars. Est-ce que c'est une proposition qui serait excessivement à la baisse de votre côté ou excessivement à la hausse du leur?
Je vous dirais, moi, pour bien connaître le dossier, on a parlé beaucoup avec le conseil municipal. Moi, j'ai rencontré à quelques reprises les gens de Zap Québec, c'est quelque chose qui fonctionne bien, que vous devez connaître. Vous les avez certainement même déjà reçus ici, je présume, avec Mario Asselin, entre autres, là, de Zap Québec, qui, c'est des antennes. Le concept avec Zap fonctionne très bien, c'est avec les antennes un petit peu partout, et eux ont déjà dit dans un plan d'affaires qu'ils avaient présenté, qu'ils avaient besoin d'un peu de financement pour faire en sorte que Québec pouvait être branché au complet, et je pense qu'avec le million qu'on fait, on n'a pas nécessairement la même approche, on y va plus par borne, par zone, un petit peu partout à Québec. L'ADQ va plus avec une antenne principale là, sur un bâtiment, et ce que les gens, entre autres les gens qui sont plus spécialistes comme ceux du Zap Québec vont nous dire, que l'approche d'une seule antenne est quelque chose qui fonctionne pas nécessairement bien, qui coûte plus cher. Donc l'approche qu'on a au Parti libéral, je pense, en partenariat avec ceux qui sont déjà là sur le terrain, c'est la bonne, puis c'est beaucoup moins cher et ça risque d'être même beaucoup plus efficace.
Bon, je pense que ça répond bien à la question. Sinon, le Parti libéral veut le plan Nord, donc peut-être que la dernière question dans Rafale, c'est peut-être la plus difficile, peut-être. Donc le plan Nord, un projet de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le Nord québécois pour développer les mines, l'énergie, tout ça. Ce serait pas plus simple de tout simplement couper dans la consommation, faire peut-être moins gaspiller l'énergie qu'on a déjà pour pouvoir la dépenser plus responsablement? C'est du moins ce que proposent les Amis de la Terre.
Oui, je vous dirais, moi, que le Nord québécois regorge de richesses qu'il faut exploiter. Puis j'ai exploité le mot, c'est pas péjoratif, mais c'est la richesse des Québécois. L'hydroélectricité, c'est notre richesse. On est des maîtres d'œuvre en matière de développement hydroélectrique. On le fait dans le respect de l'environnement. C'est une énergie qui est renouvelable, qui est verte et qui est exportable. Et c'est la richesse des Québécois. Il faut aller de l'avant avec des projets comme ça. Ça, c'est des projets majeurs qui positionnent le Québec au niveau international et qui fait que on devient des chefs de file. On le fait aussi avec les éoliennes. Alors, il faut développer notre potentiel.
Et peut-être en réponse brève, c'est un peu question de vous libérer en temps. J'irais peut-être avec la dernière tournée de questions. Et en fait, on aurait pu probablement passer un bon 15 minutes sur le plan Nord, je pense. Donc, dans le fond, je vais faire un tour de table. Votre priorité dans votre circonscription, donc la priorité principale, je vais commencer par Hébert Dufour, candidat dans Taschereau.
Alors, principal, c'est difficile de le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la formation de la main-d'œuvre, le logement social, le soutien aux aînés vont être pour moi des priorités, sans compter que l'événement dans mon comté de Québec Horizon Culture, qu'on va mobiliser le milieu de la culture. Opéra de Québec va recevoir un soutien de nous et appuyer le projet du monastère des Augustines, qui est fort important en muséologie, parce que les Augustines veulent remettre à la société, au Québec, les artefacts qu'ils ont ramassés depuis, on peut dire, des siècles.
Hein. Sarah Perrault, candidate dans Chauveau.
Le comté de Chauveau, c'est un comté où il y a beaucoup de jeunes familles. Je dirais la priorité, c'est la famille. Ça se décline comment? Ça se décline avec un développement de places en garderie subventionnées, la promotion du crédit d'impôt jusqu'à 125 000 $ pour faire en sorte qu'on a l'équivalent au niveau financier. Il y a le développement de l'axe Est-Ouest à la hauteur du lac Saint-Charles, qui désenclave le lac Saint-Charles, qui va donner aussi un peu de mobilité, je dirais, à ces gens-là. Et il y a tout le développement des infrastructures sportives, là. Les terrains de soccer, il y a des jeunes familles, alors il faut les accompagner dans leurs projets.
Et enfin, Patrick Huat, candidat dans Vanier.
Madame Perrault et moi, on est voisins. Il y a une réalité de jeunes familles aussi très présente dans le comté de Vanier. Les familles, c'est vraiment une priorité. Les places en garderie aussi. Évidemment, il y a un projet avec la Ville de Québec de centre multifonctionnel qui va desservir. C'est quelque chose de très, très gros qui peut devenir un centre régional multifonctionnel, c'est-à-dire un gros concept de piscine intérieure, de bassin aquatique intérieur, gymnase, un agrandissement de bibliothèque là, qui va devenir quelque chose de régional. Donc ça, c'est quelque chose de majeur chez nous. Et évidemment, la question pour des soins à domicile et pour les aînés. Et on a besoin absolument de groupes de médecine de famille dans le comté de Vanier.
Et en terminant, en une phrase et demie, pourquoi voter libéral? Un autre petit tour de table.
L'économie d'abord.
Moi, je pense qu'on a le chef le plus crédible dans cette situation économique-là, la meilleure équipe aussi, ça j'en suis convaincue.
Et moi, je vous dirais, ben, le Parti libéral, c'est une équipe. On a une équipe à vous offrir. On a de la stabilité à vous offrir, de l'expérience, de la compétence, de la prospérité avec le Parti libéral.
Patrick Huot dans Vanier, Sarah Perrault dans Chauveau, Hébert Dufour dans Tachereau. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Et ben François Cogé-Couillard, c'est ainsi qu'on termine la semaine électorale de notre côté?
Oui, est-ce qu'on fait un petit retour, un petit...
Bon, on pourra se donner un petit post-mortem en cours, on va absorber tout ça, et en cours, en début de semaine prochaine, okay. On se donne rendez-vous pour revenir là-dessus. Alors, ben François, d'ici là, merci beaucoup.
C'est bon, merci Raymond.
Et ben nous, la science s'en va en musique avec donc Rupa and the April Fishes. On écoute une Américaine à Paris.